Alors, cette fin de semaine, il va y avoir à Montréal, je pense, le congrès 2015 des Outre-mangeurs anonymes, une association de personnes qui souffrent de compulsions alimentaires. C'est une association qui s'inspire par sa façon de fonctionner beaucoup des alcooliques anonymes, avec les fameux 12 principes, avec des parrainages, des marrainages. Et puis, c'est, je pense, le groupe qui est un élément fort de tout ça. Alors, on reçoit ce matin en studio Francine, qui est la coordonnatrice de l'information publique pour l'intergroupe français des Outre-mangeurs anonymes à Montréal. Bonjour, Francine.
Bonjour.
Francine, qui, je crois, finalement, on parle de coordination de l'intergroupe français. Est-ce que c'est dans la francophonie, c'est
oui.
ça? D'accord.
Notre intergroupe est responsable de toute la documentation française. Alors, on fournit la documentation pour la France, la Belgique, les pays francophones.
D'accord,
en fait.
D'accord. Et à vos côtés, il y a Claire, bonjour.
Bonjour.
Et il y a Luc, bonjour.
Bonjour.
Et on va en rester avec les prénoms parce qu'effectivement, c'est une règle, hein, c'est une règle importante dans les groupes anonymes comme ça, c'est effectivement de ne pas mentionner les noms de famille. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi c'est comme ça, Francine?
L'anonymat est le principe de base du mouvement là, des groupes anonymes. C'est un principe, c'est les principes du mouvement au-delà des personnalités. On met pas en évidence les personnalités individuelles.
D'accord.
C'est comme ici ce matin, on vient parler des outre-mangeurs anonymes, de qui ça peut rejoindre, oui. Mais c'est pas nos personnalités. J'ai choisi des membres pour venir avec moi pour parler peut-être de nos histoires personnelles, mais ça doit pas être identifié à une personne.
Oui, je comprends. Luc, en entrant d'ailleurs, vous avez fait une autre précision avant même là, qu'on soit en nombre. Vous avez dit, et dans ces groupes-là, il n'y a pas que des outre-mangeurs. Vous accueillez des gens qui ont toutes sortes de désordres alimentaires.
Ah. En effet, donc anorexie, boulimie, orthorexie, hyperphagie. Donc les obèses, les personnes qui vont se faire vomir pour pouvoir continuer à manger et pas prendre de poids, les anorexiques, donc qui sont d'une extrême minceur, qui menacent leur vie parce que leur corps peut pas s'alimenter, peut plus fonctionner, mais qui pensent qu'ils sont énormes. Et l'orthorexie, ben c'est la personne qui surveille la qualité des aliments à outrance, c'est là qui va vouloir manger plus que bio, qui va vouloir tout connaître et tout savoir sur les ingrédients qu'ils ont. Fait que donc, ça aussi, c'est un désordre
ça
alimentaire.
Ça finit par être un désordre alimentaire, ouais, effectivement. Ouais. Et là, par contre, vous appelez les outre-mangeurs anonymes, et on va prendre, parce que dans votre cas, ça a été ça, le désordre qui vous a amené dans le groupe, hein? Dans les trois cas, Claire?
Ben, en fait, ce qu'on a tous en commun, c'est un problème avec la nourriture. Donc, on a tous une souffrance partagée autour de la nourriture qui se manifeste souvent avec une obsession. Ça prend beaucoup de place dans notre vie, ça devient très important. Pour beaucoup de personnes, ça se manifeste par un comportement de compulsion alimentaire. On mange plus qu'on voudrait manger. On tombe
dans l'excès,
face à cette obsession, hein. Puis à cet excès. Puis c'est ça, face au comportement de toujours manger trop, d'être vraiment comme contrôlé par cette obsession-là. Pour beaucoup de gens, ça va être de trop manger. C'est pour ça qu'on dit outre-mangeur. Pour d'autres personnes, par contre, ça peut être, comme on disait, l'anorexie. C'est un problème avec la nourriture.
Oh. Ouais. On dit trop manger, là. Puis bon, il y a beaucoup de gens qui peuvent tout d'un coup se dire, mais là, est-ce que c'est mon cas? Quand je vais partir, il me semble que je mange deux fois trop. C'est pas ça, là. On parle vraiment d'une condition où ça dérape plus que ça. Puis je pense que c'est important de donner quelques exemples. Oui. Francine, par exemple, dans votre cas.
Je pourrais parler de mon expérience personnelle. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans les outre-mangeurs anonymes. Quand je suis arrivée à OA, je pesais plus de 200 livres. Et puis, mon problème que je croyais à l'époque, c'était que j'étais grosse. Et puis, si j'étais mince, je serais heureuse. C'était mon postulat de base, c'était ça. Mince égale heureux. Alors, j'avais suivi des régimes dans le passé. J'ai suivi maintes thérapies, mais il n'y avait rien pour m'empêcher d'outre-manger. Ça réglait ma vie. Je pleurais. Je me souviens, là, avant de connaître OA, là, je mangeais non-stop le soir après le souper. Quand j'arrivais du travail, je déposais mon manteau. Je m'en allais dans la cuisine. Et jusqu'à l'heure du coucher, je mangeais. Je mangeais en préparant le repas. Je mangeais dans la casserole après le repas. pour finir, je faisais des menus, ben j'avais une fille, j'ai toujours une fille, et puis elle était petite à l'époque, puis elle me disait des fois, puis elle était super mince, puis elle me disait, maman, tu manges encore? Je lui disais, mêle-toi de tes affaires. Mmh. Tu sais, j'étais vraiment là, c'est fallait pas que personne, j'étais comme un pitbull avec son assiette là.
Oui.
J'étais vraiment obsédée, puis je pleurais. Je pleurais.
En le faisant carrément.
Pourquoi je suis intelligente pourtant? Pourquoi je suis pas capable d'arrêter de manger?
Alors ça, c'est là qu'on comprend, là. Puis que les gens vont se reconnaître ou pas, mais c'est là qu'il y a quelque chose de très particulier. Et finalement, qui est un symptôme. Puis c'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Parce que les outre-mangeurs, je trouve ça fascinant sur votre site Internet, vous dites clairement, là, vous aurez pas de régime chez nous. Il y a personne qui va vous demander votre poids, vous peser. C'est pas ça. Pour nous, votre relation à la nourriture est un symptôme. Luc, ça prenait quelle forme chez vous?
L'obésité morbide.
Parce que tous les trois, vous êtes tellement loin de ça.
Oui.
Et ça, c'est pas un succès de régime, c'est un succès d'outre-mangeur et de changer ce qui se passe dans sa tête.
Oui, parce que notre maladie, elle nous atteint à trois niveaux, physique, psychologique et spirituel. Donc, c'est de se reconnecter avec soi-même et la force des groupes, de voir qu'on n'est pas tout seul, briser l'isolement. Parce que dans le cas de l'obésité, l'hyperphagie, c'est 125 livres que j'ai perdu, mais c'est parce que avoir fait plein de régimes au cours de ma vie, j'ai dû jongler avec plus de 400 livres.
Des yoyos de 400 livres au total, à peu près.
Oui, au total. Là, c'est si on additionne toutes les pertes de poids que j'ai fait au cours de ma vie, j'ai sûrement perdu fait pour 400 livres de régimes faciles. Fait que donc, la violence, la volonté déchaînée que ça prend pour faire des régimes aux protéines, perdre 100 livres en 6 mois, manquer de perte de connaissance à l'âge de 17 ans, alors que tu gradues ton secondaire.
Et Luc, dans la tête, à ce moment-là, est-ce qu'il se passait la même chose que chez Francine? Vous vous disiez, quand je vais avoir perdu le poids, je vais être heureux.
Et en effet. Ouais. En effet,
quand... Et c'est là l'erreur.
C'est ça. Puis moi, dans mon partage, c'est que oui, vous pouvez voir le 125 livres que j'ai perdu, mais vous devriez voir la tonne que j'ai perdue entre les oreilles pour y arriver.
La tonne que j'ai perdue entre les oreilles, j'aime ça. Claire, dans votre cas, ça n'a pas été jamais une grande, immense prise de poids, mais toujours vraiment un grand désordre.
Oui, exactement. C'est ça, dans mon cas, moi, en fait, ça ne m'a pas affecté au niveau de mon poids, au niveau physique. J'ai pas vraiment pris de poids à cause de ça. Mais quand on parle du symptôme, dans mon cas, moi, j'étais quelqu'un qui portait un grand mal de vivre, un grand mal-être, quelque chose à l'intérieur, une espèce de vide, comme un vide de sens à la vie, un grand vide profond. Puis la nourriture a été un symptôme puis une solution pour moi pour combler ce vide-là, pour éviter. C'est comme devenu la solution à mes problèmes. Puis tranquillement, pas vite, ça prend de l'ampleur. Ça devient de plus en plus une solution à tout, finalement, avant que ça devienne un très grand problème. Fait que pour moi, ça s'est manifesté de toutes sortes de façons. Je mangeais en cachette, je faisais ce qu'on pourrait appeler des crises de boulimie. Je mangeais durant des heures sans être capable de m'arrêter. J'ai dépensé beaucoup d'argent aussi pour manger. Puis il y avait tout ce phénomène puis ce comportement de dépendance. Pour moi, la nourriture était vraiment une drogue. C'était vraiment une façon de me geler, en fait.
Une façon de me geler jusque-là? Oui. Francine, vous diriez la même chose?
Oui. Eh bien, Rosanne, la fondatrice des Outre-mangeurs anonymes, c'est une dame qui vient de la... Elle est décédée maintenant. Mais Rosanne, dans fin des années 60, écoutait une émission. C'était une jeune femme qui avait des jeunes enfants à la maison, en 69, je crois. Elle écoutait une émission de télé, puis elle a vu des joueurs compulsifs qui étaient interviewés dans une émission de télé l'après-midi. Puis elle s'est dit, mais j'ai le même problème avec la nourriture, incapable de contrôler mes comportements. Puis elle a pensé que peut-être, puis elle connaissait des personnes qui étaient membres des Alcooliques Anonymes. Elle s'est fait aider, puis elle a créé Overeaters Anonymous. Mm-hmm. Ça s'est créé en tout début des années 70, je pense, la création de Overeaters Anonymous. C'est un mouvement qui s'est beaucoup étendu parce que c'est sûr que dans notre société, en Nord-Amérique, on va parler de l'Amérique du Nord, il y a beaucoup l'obsession de la minceur et ses amis étaient toutes... Elle s'échangeait des régimes continuellement.
Voilà.
C'était des jeunes femmes là qui étaient à la maison avec des jeunes enfants. Et puis là, c'était le régime à la mode. Elle les a toutes essayées, comme nous, en tout cas moi, j'ai essayé plusieurs régimes. Mm-hmm. Pas tant que ça, parce que j'ai vite compris que les régimes, ça fonctionnait pas, parce que je savais qu'on reprenait notre poids, puis ça, j'avais très peur de ça.
Mais oui.
J'en ai suivi. Mes parents, quand j'ai eu 16 ans, mes parents m'ont envoyé suivre une diète chez les docteurs Boyer, là, les frères Boyer, qui étaient très à la mode à l'époque. J'ai maigri. J'avais 16 ans. J'ai maigri.
Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais le bonheur n'est pas arrivé. Donc,
le bonheur n'est pas arrivé.
C'est aussi.
Grosse déception.
Ben oui, grosse déception. Et là, parce que, par contre, je vous écoute, vous semblez d'une lucidité. Vous semblez avoir fait tous les trois un cheminement incroyable. Et est-ce que c'est essentiellement grâce à Outre Mangeur Anonyme ou en parallèle avec ça, ça a pris des thérapies, des psychologues? Ou est-ce qu'à l'intérieur d'Outre Mangeur, il y a ce genre de suivi-là aussi?
C'est non professionnel. Ouais. Donc, on ne dira pas à quelqu'un va ne pas faire une thérapie. Moi, personnellement, j'ai fait des thérapies pour régler d'autres aspects de ma vie qui, après, m'a permis d'attaquer mon problème de compulsion alimentaire. Fait que donc...
Des fois, ça prend les deux.
C'est ça. Ouais. J'ai un diagnostic de TDAHI. Donc, je suis médicamenté pour
le
ça.
Le I, c'est quoi à la fin?
Impulsivité.
Ah, d'accord.
Donc, non. Alors, on ne dira pas quoi faire ou quoi ne pas faire. Mm-hmm. Parce que, justement, je veux dire, on n'est pas des médecins, on n'est pas des psychologues, on n'est pas des psychiatres.
Oui.
Mais définitivement, il y a des gens, si, admettons, une personne a choisi la compulsion alimentaire pour se protéger, pour se geler de la douleur d'un abus sexuel, ben aller vers les centres d'aide pour les personnes agressées.
Oui.
Mais après ça, venez avec nous travailler sur votre béquille que vous avez choisi pour passer à travers ces épreuves-là.
À Outre Mangeur Anonyme, on ne s'improvise pas thérapeute pour des situations comme ça.
Non.
Ça vient en complément. Mais alors, qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce que c'est quand on dit « Ah, c'est la force du groupe » Comment on peut décrire ça, la force du groupe, Claire?
Ben en fait, pour répondre à la question précédente, moi aussi, j'ai suivi une thérapie, puis ça m'a aidé beaucoup.
Oui.
Mais ce que j'ai trouvé dans Outre Mangeur Anonyme, je l'ai trouvé nulle part ailleurs. C'était vraiment autre chose. Il y a tellement un accueil chaleureux quand on arrive, puis se reconnaître avec des gens, sortir de l'isolement. Moi, avant de connaître Outre Mangeur Anonyme, je pensais un peu que j'étais folle et que j'étais seule là-dedans. Fait que tout de suite, briser l'isolement, puis se retrouver avec des gens qui parlent d'eux-mêmes de façon honnête, on peut... vraiment tout se dire. Il y a vraiment comme un genre d'amour inconditionnel, une force très forte, fraternelle, qui se partage à travers les gens que j'ai trouvé nulle part ailleurs. Puis aussi, le programme de rétablissement en 12 étapes est très important pour venir comme... accéder à cette guérison-là dont on parle.
Rappeler un petit peu les 12 étapes. Là, je les ai pas sous les yeux. Comment ça commence? Vous devez les connaître.
La première étape, c'est d'admettre qu'on est impuissant devant la nourriture puis qu'on a perdu la maîtrise de notre vie. Donc, c'est le premier pas. Puis ensuite, la deuxième étape, c'est d'en venir à croire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, une puissance supérieure qui va pouvoir nous rendre la raison.
Et ça, c'est aussi quelque chose qui... Oups! Il y a un petit agacement chez beaucoup de gens. Ah! On sait bien, c'est religieux. C'est pas religieux. Hein?
Non, spirituel. En fait, c'est vraiment spirituel. On parle d'une force plus grande. Donc, comme on disait tantôt, ça peut être la force du groupe. C'est juste que moi, toute seule, par moi-même, j'étais pas capable. Je savais très bien comment bien manger. Je connaissais tout sur la nutrition, mais ça prenait quelque chose de plus grand pour m'aider parce que avec ma force seule, ça allait jamais arriver. J'ai tellement essayé puis j'étais pas capable. Donc, cette force-là, on peut la définir comme on veut. C'est vraiment au niveau spirituel. Puis les 12 étapes sont fondées sur des principes spirituels d'honnêteté, de générosité, d'humilité, de courage, de don de soi. Fait qu'on peut regarder vraiment l'aspect spirituel là-dedans, puis après ça, c'est libre à chacun de définir.
Si on vous avait... Parce qu'il faut être au bon moment dans sa vie là pour que ça, cette vision-là, porte. Est-ce qu'il y a un moment de votre vie avant où vous auriez regardé ça, vous auriez fait « c'est toutes des niaiseries » ou « c'est fleurs bleues » ou... Est-ce qu'il y a des moments où on est prêt tout d'un coup, plus que d'autres?
Il faut être... Je pense qu'on parle d'un bas-fond. Quand on atteint un bas-fond, moi, je suis allée dans OA une première fois en 1993. J'ai entendu un partage. C'est des conférenciers, souvent, les groupes. Puis j'ai entendu un partage, puis je me suis dit, hey, je suis pas folle de même, moi. Je suis pas folle comme ça. Je suis revenue 2 ans plus tard. Mais je savais...
En disant, finalement, je suis peut-être folle de même.
Ben oui.
C'est
mais c'est une maladie, hein.
C'est la même chose
que l'alcoolisme.
C'est ça.
Notre relation... moi, je peux boire un verre d'alcool sans me saouler. Puis je suis pas obligée d'en prendre un deuxième. Mais je veux dire, moi, mettez-moi pas un sac de... Mettez-moi pas un bol de chips ou des noix salées devant moi, je vais finir le plat là.
D'ailleurs, est-ce que ça a été pareil pour Luc et Claire aussi, un moment de votre vie là où
moi, j'ai
fallait
le mouvement
que ce soit le
95,
bon
je l'ai fréquenté mon groupe à peu près 6 mois de temps, puis dans le jargon on dit je suis parti avec ma méthode. Hein. J'étais au-dessus de tout, un manque d'humilité, un manque de compréhension et d'acceptation de ma maladie. Fait que j'ai fait une marche dans le désert de 11 ans. Fait que j'ai été 11 ans sans faire de meeting. Fait que c'est ça. Fait que oui, le bas-fond, comme dit Francine, c'est vraiment important. Fait que donc, l'importance aussi de continuer lorsqu'on est dans le rétablissement à faire du meeting, parce que ça, c'est la 12e étape, c'est de redonner au groupe, redonner aux outre-mangeurs qui souffrent encore et de partager notre compréhension puis l'application du programme qui fait que on a pour aujourd'hui une abstinence. Donc, moi j'accepte ce fait-là que je devrais faire du meeting peut-être pour encore 60 ans. Là.
Mais pas tous les jours de votre vie, là, mais quelques fois par semaine.
Toutes les semaines.
Toutes les semaines. Ça reste votre rythme. Oui. Vous avez employé le mot abstinence, Luc. Ça me fascine beaucoup parce que quand on parle de drogue ou d'alcool, on peut très bien vivre sans drogue ou sans alcool, puis l'abstinence, c'est quelque chose de clair.
Oui.
Comment définir l'abstinence quand on parle de nourriture? Parce qu'il faut manger pour vivre.
Mais donc, moi, je l'aborde avec en parallèle comme un alcoolique. L'alcoolique a un problème avec l'alcool. Donc, il y a un problème avec trois grandes familles d'alcool. La bière, le vin, les spiritueux. Moi, je suis un outre-mangeur, puis je me décris l'outre-mangeur ultime. Je peux compulser dans le gras, dans le sucré et dans le salé. Ma cocaïne à moi, c'est de la crème glacée avec du beurre d'arachide fondu, du sirop d'érable.
Oh!
Fait que ça, c'est ma coke.
OK, ça, c'est votre
coke. Donc, moi, mon plan alimentaire, pour être capable, que je dis je suis abstinent, j'ai un genre de paléolithique, mais pas parfait, qui est donc chasseur-cueilleur, donc viande très peu transformée, plus de friture, une viande cuite au four, cuit au barbecue, les légumes à l'étuveuse au four, les fruits entiers ou en salade de fruits. C'est tout.
Donc, éviter les gras, le sel et le sucre qui est votre drogue.
Exactement.
C'est ça.
Okay. En fait, l'abstinence aussi, c'est de se concentrer sur c'est quoi les comportements qui étaient très nuisibles pour nous, c'est quoi qui nous faisait du mal, c'est quoi qui déclenche ces comportements-là.
Ah, oui.
Donc, éviter tout ce qui déclenche la compulsion, l'obsession, essayer d'éviter ça parce que c'est ça qui est un peu le début de la fin. Puis de revenir à la raison, puis de revenir à une relation raisonnable avec la nourriture, de manger. Finalement, manger, on mange pourquoi? Pour nourrir notre corps, pour être en vie, pour être en santé.
Mais ça, il faut beaucoup de sagesse, Claire. Luc, lui, a une balise plus précise. Oui. Est-ce que vous, ça vous a pris ça aussi, une balise? On parle pas de régime, là. On parle de balise. Est-ce que Francine puis Claire, vous en avez
Ben, moi, disons que j'ai pas de problème avec le sucre. Je suis pas une bibitte à sucre, comme on dit, là. Moi, c'est plus le salé. Alors, c'est sûr que tout ce qui est grignotine,
Abstinence. Pour vous, ça, c'est l'abstinence.
Oui, c'est l'abstinence, mais c'est pas juste ça. Il faut que je mange des repas équilibrés aussi. Oui. Moi, je suis pas capable, par exemple, de manger du pain blanc. Au restaurant, quand on découpe une baguette là dans le panier, moi, je peux toute la manger, malgré qu'il y a d'autres mondes autour de la table. Moi, je vais tout manger le panier. Mais chez moi, je mange que du pain de grain entier.
Ah oui.
Puis j'ai jamais compulsé, moi, dans le pain de grain entier, grain germain. Je compulse pas là-dedans. Mais je compulse dans la baguette, dans le pain blanc.
D'accord.
Ça fait longtemps que je le sais. J'ai souvent mangé j'adore la baguette.
Mais je peux pas
en manger parce que ça me rend.
Ça peut pas rester.
Ben, il y a comme une folie qui s'installe. Je sais pas. On peut pas. On dit souvent dans le mouvement, il faut pas essayer de comprendre. Il faut juste essayer de voir c'est quoi nos comportements. Moi, par exemple, je me souviens que, quand je mangeais dans ma famille, parce que c'est très, tu sais, on dit qu'on mange nos émotions, c'est vrai aussi, c'est un cliché, mais c'est vrai. Quand je mange dans ma famille, c'est difficile.
Ça doit être plus difficile. Ça ramène des vieux comportements.
Donc, on est heureux, on mange trop, on est malheureux, on mange trop, on est fatigué, on mange trop, on est sur un high, on mange trop. Donc, il faut apprendre à vivre sainement nos émotions.
Ouais.
Donc, pleurer nos peines, dire respectueusement nos inconforts, nos colères. au lieu de se faire mal à nous-mêmes.
De se trouver un refuge.
De se trouver un refuge dans la bouffe.
Alors, c'est vraiment admirable. Je vous félicite sincèrement tous les trois. Alors, ils seront là en fin de semaine au congrès 2015 des Outre-mangeurs anonymes. Oui. Une association, donc, de personnes qui souffrent de compulsions alimentaires. Et on a reçu ce matin Francine, qui est la coordonnatrice de l'information publique pour l'intergroupe français des Outre-mangeurs anonymes à Montréal. Claire et Luc, un grand merci pour vos témoignages.
Merci à vous.
Au revoir.
Merci.